Donc, j'ai quitté le rivière précipitamment, puisqu'on m'avait dit qu'il y avait, il y aurait une sélection. L'infirmière m'a prévenu. Mes amis sont venus tous me chercher, toutes mes amies. Et puis, je suis retournée au bloc et j'ai recommencé à travailler comme si de ne rien n'était. Et là, de nouveau, on a recommencé les routes. Alors, ça, c'était pas tellement indiqué après quelques jours d'accouchement, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Il fallait que je travaille. Il fallait que je fasse avec. Et au début, j'avais toujours en tête mon enfant, et mes amis étaient tellement formidables, et ma belle-sœur, que elles ont essayé de me faire oublier ça. Et tous les soirs, elles sont venues, on a blagué, on a eu des conversations sympathiques. Et alors, nous avons donc travaillé dans la forêt, et un jour, vers midi, on a eu notre ration de soupe. Et puis à midi et demi, on s'est mis en rang, mais on n'est pas parti tout de suite. Les SS, les femmes, et les SS hommes qui nous accompagnaient ont commencé un petit peu à flirter, un petit peu au loin, enfin au loin, pas très loin, mais un petit peu à côté. Et de l'autre côté, il y avait des déportés à rayures qui nous regardaient. Il y en a un qui s'approche. Et moi, du coup, j'étais toujours à l'extrémité. Là aussi, je me suis remise à l'extrémité du rang. Et ce Polonais vient carrément vers moi. J'avais des cheveux courts et j'avais oublié de vous dire que je me suis fait des petites nattes avec mes deux cheveux et j'ai pris une brindille de bois. J'ai attaché ces deux nattes au-dessus de ma tête et j'avais l'air polonaise avec ça. J'ai pas fait ça pour ça, mais j'ai fait ça pour me dégager un petit peu les cheveux. Et ce monsieur a pensé peut-être que j'étais polonaise. Et il s'approche de moi carrément. Et il vient et il me parle en polonais. Alors, la seule phrase que je sais, c'est Nielozomi Popolsku, ça veut dire que je ne sais pas parler polonais. C'est tout ce que je savais. Bon, j'avais des petits mots pour le troc qu'on faisait, pommes de terre, tomates, etc. Mais alors, il me dit, est-ce que vous parlez l'allemand? Je dis oui. Il a pu me parler parce que les SS étaient en train de flirter entre eux. Et alors, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Il me dit, moi, je suis avocat, mais j'ai fait la résistance et j'ai été déporté comme résistant. Et vous? Je dis, nous, on est des juifs, on a été déportés comme juifs. Il me dit, vous avez assez à manger? Et moi, ma mère m'a toujours appris que vaut mieux faire envie que pitié, et puis j'ai beaucoup de pudeur. Je dis, oui. Et là-dessus, je reçois un coup de pied dans le tibia de ma belle-sœur, qui me dit, mais idiote, on n'a rien à bouffer, pourquoi tu ne lui dis pas qu'on n'a rien à manger? Alors, ça m'a tellement fait mal, je me suis frottée, puis je me suis dit, bon, je vais lui dire qu'on n'a rien à manger. Je lui dis, effectivement, en vérité, c'est vrai qu'on a rien à manger, je lui raconte tout ce qu'on a. Il me dit, écoute, moi, je viens demain, je t'apporte une tartine de pain. Je lui dis, écoute, si tu apportes une tartine de pain, apporte déjà deux, parce que j'ai ma belle-sœur à côté. Et le lendemain, on est revenu travailler, ils étaient là, ils m'ont apporté deux tranches de pain. Je vous dis que ça. Et bon, j'ai partagé une tranche avec ma belle-sœur, on est rentré, on a coupé ça avec. Dans les koyas, on était 3-4. On ne pouvait pas manger quelque chose seul, ça c'était quelque chose qui ne sortait pas. C'était tellement spécial ce pain. Et pendant 2-3 jours, ils nous ont apporté du pain, et le quatrième jour, on ne les a plus vus. Alors je me suis dit, c'est toujours ça de pris. On a toujours eu 4 jours comme ça nous a changé un petit peu l'existence. Mais enfin, c'était toujours pas la joie et on a continué comme ça jusque fin décembre, janvier, il faisait déjà très très froid. Alors on entendait de plus en plus proche les bombardements. Et de plus en plus, on pensait que vraiment on va être délivré. Mais il n'en était rien du tout. Et le 18 janvier, alors ça je me rappelle de la date, on nous a fait sortir et tout le monde dehors pour partir au loin. Je reviens un tout petit peu en arrière et je vais vous raconter une petite histoire. On nous a fait sortir une fois à Auschwitz, dehors à l'appel, et chaque fois qu'on faisait sortir à l'appel, on avait toujours peur, qu'est-ce qui va se passer? C'est une sélection. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Ça c'était à Auschwitz, oui. C'était après l'accouchement et on voulait nous montrer l'exemple d'une Polonaise qui a été déportée, je crois que c'est une Polonaise, qui a été déportée depuis très longtemps, en 1939, pas, 36, 37, et qui a fait de la résistance. Elle était très jolie. Elle a fait de la résistance à l'intérieur du camp. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en bonne entente avec un SS, qu'il a trouvé à son goût. Les SS n'avaient absolument pas le droit de toucher aux Juifs. Et c'est pour ça qu'ils avaient des femmes là-bas. Ça ne leur manquait pas. Mais elle était vraiment très jolie. Et elle en a profité, elle, pour divulguer des nouvelles de là-bas. Elle a fait sortir beaucoup de documents. Et elle a fait sauver quelques personnes. Mais malheureusement, parmi ces personnes, on en a repris quelques-uns. Elle a fait ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on a tellement torturé ces gens, ces prisonniers qu'on a retrouvés, qu'ils ont divulgué son nom, ils ont dénoncé, et on voulait la pendre devant nous. Et on voulait nous donner l'exemple. Alors, il fallait que tout le monde sorte pour voir ça. Et alors là, je me suis mise vraiment derrière, parce que je ne pensais pas que je tiendrais le coup. Et on l'a amené, les mains attachées derrière le dos, et je crois que c'est Mengele, il me semble, qui était devant elle. Il y avait la potence, et il lui dit « Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ?» Alors, pour toute réponse, elle lui a craché à la figure. Elle ne pouvait pas faire autre chose, parce qu'elle avait les mains liées, et on l'a pendait haut et court. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, j'ai fermé les yeux, j'ai baissé les yeux, je n'ai pas regardé. Et il y en a qui se sont évanouis. Moi, j'avais peur que si je m'évanouis après un accouchement, on va m'ausculter, on va me regarder. Et puis, de toute façon, on était insensibles. Mais là, vraiment, c'était quelque chose de tellement terrible de voir une pendaison comme ça. Elle était formidable, cette femme. Elle a vraiment fait énormément. Elle a divulgué des documents dehors qui sont arrivés aux mains des Anglais, aux mains des Américains, qui n'ont strictement rien fait du tout, qui n'ont rien bombardé. On s'attendait à être bombardé par ces gens. Ils ont connu absolument tout, hein, tous les détails du camp. Donc le 18 janvier 1945, on nous a sortis du camp, tout le monde en rang, pour nous expédier, pour pas que les Russes nous libèrent, parce qu'ils n'étaient pas loin. Je me suis mis donc en rang avec ma belle-sœur, et on était affolés, on va se dire, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on nous fait sortir. Mais on entendait quand même les bombardements, on a compris. On attend. Et entre-temps, je dis à ma belle-sœur, écoute, il doit y avoir un bloc de ravitaillement, tout le monde s'en va, peut-être que je vais trouver quelque chose. On ne nous a rien donné à manger, rien. Elle me dit, oui, c'est une très bonne idée. Je t'attends ici, donc, dans le rang. Et je vais au bloc de ravitaillement, avec beaucoup de précautions, parce que les SS étaient avec les chiens, parce qu'ils regardaient les gens qui devaient se cacher. On a pensé se cacher, nous aussi. Mais d'abord, je ne parle pas polonais. Les Polonais sont très antisémites. Je ne parle pas le polonais. Et je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer. On a toujours peur d'un avenir plus que ce qu'on a. Enfin, on n'avait pas la tête sur les épaules. On a pensé d'abord au manger. Et je vais dans ce bloc de ravitaillement. Et au miracle, je trouve un sac de sucre devant mes yeux. Et je trouve un chiffon par terre. Je vous demande si ce n'était pas vraiment la voix de Dieu qui m'a envoyé là-bas. Je prends vite le chiffon, sale, pas sale, ça m'est absolument égal. Et je remplis avec ma main ce que je peux de sucre. J'avais un petit paquet, pas très gros, comme ça. Et j'entends un SS qui vient chercher, s'il n'y a pas des gens de cachés. Je me sauve en vitesse. Et je reviens pour me mettre dans mon rang. Et mon rang était parti, avec ma belle-sœur dedans. On les a expédiés. Je cherche partout. Et le SS qui me voit déambuler partout, il me dit « Mets-toi dans le rang tout de suite ici. » Et oust, en vitesse. Et j'étais désolé. J'étais vraiment désolé d'avoir perdu ma belle-sœur. Elle est partie et je ne sais pas, je ne l'ai jamais revue. Et je me suis mis dans le rang. Et à côté de moi, il était une petite femme très chétive, très maigre, très maigre. Et on était gardés par des SS, mais des SS déjà vieux, qu'on ne pouvait plus envoyer sur le front. Et ce SS a parlé avec le SS qui était de l'autre côté. Et lorsqu'il a parlé, j'ai reconnu à son accent que c'était un Hongrois. On sent tout de suite un accent hongrois, ça se sent à 100 km à la ronde. Et je me suis permis, j'ai dit, dites-moi, je dis Hongrois, vous êtes Hongrois? Il me dit oui. J'ai dit, est-ce que vous savez où on va? Il me dit non. Je ne sais pas du tout, mais je peux te dire une chose, parce que tu es une Hongroise, je vais te dire. Je vais te dire simplement je te conseille de ne pas t'asseoir en route, pas une seconde, parce que tous les gens qui sont assis et qui se reposent, on leur tire dessus. C'est un ordre, je suis obligé d'exécuter. Donc ne t'assois à aucun prix. C'est tout, et dis-le à ta copine, et on s'arrête là. Et alors je lui fais part, la dame là, très maigre à côté de moi, et puis je garde précieusement mon petit ballot de sucre, je le garde comme ça. Et pendant tout le temps que nous avons 3 jours marché, j'ai gardé ça comme ça, et j'ai une très mauvaise circulation, enfin, due à ces choses-là. Et on a marché. Et je peux vous dire que sur toute la route enneigée, en janvier, c'était plein de cadavres. Des gens qui ont passé avant nous, qui se sont arrêtés et sur qui on a tiré. Mais c'était plein de cadavres, de toutes les formes, de toutes les statures, hommes, femmes, enfants, tout ça, c'était jonché. Alors ça nous a donné un coup et on s'est dit, il faut marcher, marcher, marcher. Et CSS sont marchés avec nous. Et en route, alors j'ai pris mon sucre, j'ai trempé mes doigts dans la bouche et j'ai donné à ma copine. Et Laurent a trempé un petit peu ses doigts dans ce sucre qui nous a un petit peu soutenus. C'est ça qui nous a maintenus en vie, ce petit peu de sucre en poudre. On arrive à Ravensbrück dans un état lamentable, vraiment affamé, fatigué. Et à Ravensbrück, on s'est dit, enfin, on va rester là. Malheureusement, c'était archi complet. On ne pouvait plus nous avoir. Alors on nous a laissé reposer là-bas la nuit. Et la nuit, j'ai essayé d'aller au bloc de ravitaillement, où j'ai pu avoir difficilement organisé, volé quelques pommes de terre, crues, naturellement. Mais c'était un délice. Et le lendemain, même les SS ne pouvaient plus marcher. Ils nous ont mis dans des wagons, des soutes à charbon. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien faire du moment qu'on était assise? Je dis assis parce qu'il y avait les SS aussi. Et on a roulé, roulé, toujours sans manger, juste ces pommes de terre que j'ai pu organiser. Et on est arrivé à Neustadt. Donc nous arrivons à Neustadt. Neustadt était une ville de villégiature. Je ne le savais pas du tout d'ailleurs, parce qu'on nous a tout de suite amenés dans un genre de caserne, mais non pas du côté des soldats, mais du côté où il y avait simplement des chambres vides, et qui étaient très sales d'ailleurs. Et là, alors, c'était le double enfer. Là, nous n'avions plus du tout de pain, parce que c'était un petit peu déjà la débandade chez les Allemands. Mais ils étaient toujours là, en tout cas les capots étaient encore là, les autres capots naturellement. Et on avait le droit simplement qu'à une timbale de soupe à midi et rien d'autre, mais par contre on avait des poux. Alors là, on avait des poux toute la journée. Toute la journée, on se dépouillait, on ne faisait pas autre chose parce qu'on ne nous donnait pas de travail. Et on avait très peur d'ailleurs de ne pas travailler parce que qui ne travaille pas, on ne donne pas à manger. Alors on avait les poux, je peux vous les décrire, en faire des dessins de toutes les manières, de toutes les façons. Parce que toute la journée, au début, c'était dégoûtant, et puis on s'est habitué, on a dû enlever sa robe et dépouiller chaque pli, chaque couture de poux. On avait des poux et des poux et des poux. Et on n'avait rien à manger, c'était effrayant. Alors c'est moi, ces 4 mois, je crois que si j'avais su où j'arrive, à Neustadt, dans un endroit pareil, je ne sais pas si je ne me serais pas vraiment sauvé. Vraiment, tant pis si on me tire dessus. Parce que ça, c'était effrayant, effrayant. Un jour, j'étais tellement affamé, j'étais tellement à bout, que lorsque le capot a tourné la tête, je me suis pris encore une timbale de soupe, et j'ai à peine trempé la timbale dans la barrique. Elle s'est retournée et elle m'a asséné de tels coups de trique que je suis resté abasourdi une journée entière, sans bouger, sans connaissance. C'était vers la fin déjà, vers la fin du 4e mois. Et mon ami m'a dit, tu sais, on avait beau te secouer, tu étais complètement parti, on a pensé que tu étais fini. Et lorsque je me suis réveillé, pas un jour et demi après, enfin j'avais peut-être la chance parce que je n'avais pas besoin de manger pendant ce jour et demi, il faut toujours regarder de quel côté on a la meilleure chose, Je n'ai vu plus personne à côté de moi. Plus personne. J'étais seule dans la chambre. Je me suis levée péniblement. Il n'y avait plus de capot. J'ai chancelé. Je me suis dit, non, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Et je sors difficilement de la chambre. Plus personne du tout. Seulement quelques cadavres par terre, ceux qui jonchent le sol. Et au loin, je vois simplement un baraquement avec plein de gens qui se trémoussent, qui se courent à droite, à gauche devant ce baraquement. Je ramasse mes forces, je prie Dieu qui me donne des forces, et je me dis, il y avait certainement quelque chose là-bas, il y a certainement à manger. Et je réalise qu'il n'y a plus personne et que peut-être on est libéré. Mais j'ai réalisé très difficilement ce que je refaisais surface. Je vais donc doucement à ce baraquement, et à peine je suis devant ce baraquement où les gens courent à des allures de folie, que je tombe par terre parce que je suis affaibli, et tout le monde me marche dessus. Mais alors, je peux vous dire, personne n'a pensé à me ramasser, tout le monde m'a marché dessus, et je me suis dit, alors ça c'est ma fin complètement, je suis fini. Alors tout ce que j'ai fait, la coquetterie féminine, je me suis protégé la figure avec mes deux bras, comme ça, et je me dis au moins que le visage ne soit pas abîmé. Et je reste comme ça, et les gens me montent sur la poitrine, sur le dos, sur le ventre, enfin, partout. Et je me dis, bon, alors tant pis, c'est fini, et je fais Shema Israël, c'est notre prière, toujours vers la fin, quand on implore Dieu, écoute Israël, mon Dieu, tu es un. Et normalement, on ferme les yeux quand on fait Shema Israël. Et on les ouvre après. Et en ouvrant les yeux, toujours avec mon bras replié sur ma figure, je vois un pan de pantalon qui est devant, juste devant ma figure. Je me dis, mon Dieu, donne-moi la force de tirer ce pan de pantalon, peut-être que ça va me soulever. Et Dieu certainement m'a écouté. Et le monsieur qui courait avec ce pan de pantalon, en courant, m'a soulevé et retenait son pantalon qui glissait petit à petit parce que je tirais son pantalon. Et je me suis trouvé debout grâce à ce monsieur. Et lui, il remontait toujours son pantalon. Et croyez-moi, j'ai commencé à courir comme les autres. Et croyez-moi que s'il y avait eu quelqu'un par terre, je ne l'aurais pas ramassé non plus. Des gens affamés, après tant de mois, qui n'ont pas mangé, et que c'était un bloc de ravitaillement, c'était des sauvages. Nous étions des sauvages. On a fait de nous des sauvages. C'est ça qu'ils voulaient. Je ne sais pas, on appelle ça en allemand des Unmensch. Ça veut dire qu'on n'est pas des hommes. Rien du tout. Alors je suis rentré, moi aussi, dans ce bloc de ravitaillement. Il n'y avait strictement rien que des boîtes de singes, c'est-à-dire des boîtes de viande, des conserves de viande. Et on avait de la chance que dans le temps, ces conserves de viande avaient une clé qui était soudée à même. Donc on pouvait les ouvrir avec cette clé. C'est aussi une chance. Et on avait que ça. Alors j'ai pris mes forces, j'ai pris mon tablier que j'avais toujours encore, ce tablier. J'ai mis plusieurs boîtes. Il y en avait des boîtes, il y en avait plein. Mais il n'y avait que ça, il n'y avait rien d'autre. J'ai mis plusieurs boîtes. Et je suis sorti de ce bloc. Et je déambule dans ce bloc, dans cette cour, qui, je vous dis, il y avait des cadavres, et je peux vous expliquer après pourquoi. Et je rencontre, qui je rencontre devant mes yeux, cette petite jeune fille, Myriam, que j'ai rencontrée à Birkenau, et qui était la petite bonne de ce capot, qui déambulait, elle aussi. Moi, j'avais 21 ans, elle a dû avoir 15, 16 ans. Et elle me voit, ah, qu'elle était contente. Et je lui dis, Myriam, tu sais, je crois qu'on est libérés. Elle me dit, oui, les Allemands sont partis, il n'y a plus personne. Et on est libérés. J'ai dit, tu veux que nous rentrions ensemble à Paris? Les Russes vont venir, ils vont nous libérer. Oh oui, comment et comment? Et elle regarde mes boîtes et elle me dit, ah, tu as à manger? Je dis, oui, tu viens, on va s'asseoir par terre et on va commencer à ouvrir une boîte. Et j'avais ma petite cuillère. Elle me dit, non, moi je veux la boîte entière, je vais tout de suite manger, je vais tout de suite manger. J'ai dit, non, tu ne mangeras pas tout de suite, c'est très gras, on n'a pas mangé, on n'a pas de pain, on va manger une cuillère, et on va manger une cuillère après 1 heure. Non, moi je veux, moi je veux, moi je veux. J'ai dit, tu vois les cadavres qui sont ici, c'est de la dysenterie. Ils se sont jetés sur le manger. Ils ont eu une dysenterie épouvantable, ils sont morts carrément de dysenterie. Non, elle veut. J'ai dit, écoute, je te préviens. J'ai commencé à crier, très fort. J'ai dit, écoute, je te préviens, si toi tu vas manger ça, moi je ne suis plus avec toi. Parce que je n'ai pas envie de me déambuler avec un cadavre à Paris. Je sais que tu habites Lyon, mais même jusqu'à Paris. Ah bon, si tu le prends sur ce ton, si tu cries tellement, bon, je vais faire ce que tu dis. Et ça aussi, j'ai été inspiré, parce que moi j'avais très faim aussi, mais j'ai compris que cette viande grasse, on a mangé une cuillère, on a attendu une demi-heure, on a mangé encore une petite cuillère, et ainsi de suite. Et on a mangé que ça, en attendant, on n'avait rien d'autre. Et puis, le lendemain, enfin même le soir même, on a cherché où est-ce qu'on pourrait loger, et on a vu la caserne, on a découvert, c'était une caserne de soldats. Donc, de soldats, il n'y avait plus. Nous sommes rentrés dans une chambre de caserne, et on s'est installé là-bas. On avait des fusils qu'ils ont laissés, je ne sais pas pourquoi. Et nous, on ne savait pas s'en servir, mais enfin, on a toujours pris les fusils. On les a gardés à côté de nous, au cas où. Et puis, on a été chercher de l'eau, il y avait de l'eau fraîche. Les soldats avaient un peu tout ce qu'ils avaient besoin. Et on attendait que les Russes nous libèrent. Un jour, deux jours, on ne voit rien venir. Et on mangeait toujours notre conserve, petit à petit. Et un jour, on voit rentrer dans la cour, parce qu'il y avait une cour devant les chambres, on voit rentrer à cheval un Russe. Et il descend de cheval, et il se dirige, nous étions les seuls d'ailleurs là-bas, il se dirige dans notre chambre, un grand gaillard, et moi j'ai commencé à prendre peur, parce qu'encore s'il vient nous délivrer plusieurs Russes, bon, mais un Russe comme ça tout seul, et il se dirige directement vers moi, et il dit à ma jeune fille, à Myriam, va me chercher de l'eau fraîche. Et Myriam veut se lever, je dis, Myriam, tu ne bouges pas d'ici, tu restes là. Oui, mais moi j'ai peur, je dis, moi aussi, mais tu restes là. Et par bonheur, ce Russe parlait un tout petit peu l'allemand, un tout petit peu. Et j'ai dit, tu veux de l'eau? J'ai dit, pas, niet vodka, parce que c'est tout ce que je connaissais. Alors, il s'approche très dangereusement de moi, et moi j'ai eu très peur, et alors là j'ai craqué, j'ai flanché, j'ai pleuré. J'ai dit, écoute, tu vois mon numéro? Moi je suis juive. Et avec tout ce que j'ai passé, tu crois que j'ai besoin encore d'avoir peur de toi aussi? Qu'est-ce que tu veux me faire maintenant? Il me regarde avec des yeux arrondis. Il dit, tu n'es pas polonaise? Je dis, non, pas du tout, je suis française. J'ai été déportée et je raconte que j'ai un enfant, etc. Je ne savais pas que tu étais juive. Moi, je pensais que tu étais une polonaise. Et en plus, je pensais que tu étais une capot. Je connais l'histoire. Alors, toutes les capots, on se les fait et on tire dessus après. Et toutes les polonaises, on se les fait, on tire dessus après. Mais si tu as déjà souffert, je te laisse. Et il est parti. J'avais une chance inouïe. Vraiment, je ne sais pas comment vous raconter à chaque fois comment j'ai eu des miracles. Et ça, c'était dû parce que mes parents ont fait la prière pour moi. Et j'étais sûr que je vais les retrouver. J'avais, comme ça, à mon fond antérieur, je me répète peut-être encore une fois, mais j'étais sûr que je vais retrouver mes parents et c'est eux qui ont prié pour moi. Ce n'est pas mes prières dont je savais la moitié seulement par cœur qui ont dû faire quelque chose. Peut-être. Mais je peux vous dire que le lendemain, on n'a pas demandé notre reste. On est parti sur le champ. Alors on s'est habillé avec des vêtements militaires qui jonchaient là-bas sur le sol, parce qu'on était très mal fagotés. Et on a pris des fusils et on a dit, Myriam, le premier Allemand qu'on voit, on lui tire dessous. Ça, je te dis tout de suite, on tire dessus. Ça, il n'y a rien à faire, on va se venger. Et on va, on marche et on arrive dans cette merveilleuse ville de villégiature, qui est Neustadt, que moi je ne connaissais pas du tout. Alors on a trouvé des villas splendides, on rentre dans une villa désert, dans une deuxième villa désert. Tout le monde est parti, ils avaient peur. La troisième villa, on rentre, naturellement, on a pris le genre des Allemands, un coup de pied dans la porte, le fusil comme ça, et on trouve des petits vieux assis autour des tables, d'une table. Alors on a commencé à crier, sale boche, on va vous rendre tout ce que vous nous avez fait, vous allez voir, on va vous tirer dessus à bout portant, et etc. Enfin, tout ce qu'on a pu sortir de bêtises et de ça, ce que les Allemands nous ont fait. Et ces vieux étaient recroquevillés au bord, vraiment dans un petit coin, ils ont eu très peur. Ils disent, c'est pas nous, c'est eux, c'est pas nous. Mais je peux vous dire comment un juif peut tirer sur un autre, et d'autant plus qu'on ne savait même pas comment marcher ses fusils. On voulait juste leur faire peur. On a réussi. On attendait qu'il tombe cardiaque, mais il n'y en a pas un qui est tombé. Et bon, on est sorti, on était un petit peu... on avait un petit peu notre revanche, pas beaucoup, mais on avait un petit peu notre revanche. On a dit, bon, ça suffit, c'est vrai qu'ils sont vieux, c'est pas la peine qu'on fasse encore du dégât, d'autant plus qu'on savait... On aurait pu les taper avec le cross, mais c'était pas notre genre. Et on est parti dans une des villas, et on s'est installé dans un lit douillet, sympathique, et on s'est dit, on va passer la nuit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais au milieu de la nuit, on s'est levé parce que c'était trop douillet, et il fallait qu'on se couche par terre. On ne pouvait plus supporter le lit, et on s'est couché à même le sol, on était tellement habitués. Et bon, le matin, on a cherché dans le jardin une brouette, et on a ramassé des couvertures, et tout ce qu'on pouvait pour faire du troc, pour avoir du pain, et on va aller quelque part, on ne savait pas où, sur la route. Et on a ramassé tout ça, on avait déjà peur de rester là-bas, et on va sur la route avec notre brouette, couverture et tout ça, pour faire du troc, pour avoir du pain. Et on voit sur la route un monsieur, et je lui dis en allemand, dites-moi, est-ce qu'il y a les Russes quelque part pour nous libérer, nous avons été déportés? Ah, il dit, vous avez été déportés, c'est formidable. Marchez encore un petit peu, vous avez les Américains qui sont à 10 minutes d'ici. Mais laissez votre brouette, vous n'avez rien besoin, ils vont tout vous donner. Bon, alors on a laissé la brouette, et 10 minutes après, on est arrivé effectivement dans le camp américain. Et les Américains nous ont reçus à bras ouverts, nous ont habillés, nous ont donné à manger, et nous ont dit, demain vous aurez un avion, on va vous rapatrier. On attend demain l'avion, il n'y a pas d'avion. On attend encore un jour et toujours pas d'avion. Je dis, mais alors, monsieur, moi je veux rentrer, moi je veux retrouver mes parents. Qu'est-ce que c'est? On ne va pas rester ici éternellement. Alors il dit, écoutez, on nous a promis des avions, mais on n'est pas les seuls camps ici, il y en a beaucoup. Alors je dis, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Vous avez un camion dehors. Vous mettez deux bancs de chaque côté. On va s'asseoir dedans et vous nous emmenez un petit peu en voiture jusqu'à une gare. Et là, on va prendre le train. Ah, il dit, vous voulez comme ça? Ben, comme ça, on peut faire. Mais il n'y a pas de bâche. C'était déjà le mois de mai 1945. Il faisait un peu meilleur déjà. Alors, je dis, pas de bâche, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça peut faire? Il fait beau, et s'il pleut, c'est pas grave. On en a vu d'autres. Bon, tout le monde est d'accord? Oui, ce qui rentre sur les bancs, tout le monde est d'accord. Ils ont dit, mis des bancs. On est monté dans ce camion. Il fallait se tenir bien parce qu'il n'y avait pas tellement de... Ça flanchait un petit peu de partout au détour, mais enfin qu'est-ce que ça pouvait faire du moment qu'on va vers la liberté, ça n'a pas de prix. Et il avance le camion et on tombe devant un gardien russe avec une barrière, on passe pas parce que les Américains, je pense qu'ils étaient entre deux camps. Il y avait les Russes qui devaient arriver d'un côté, qu'on n'a jamais vu, et les Russes qui sont arrivés certainement de l'autre côté. Les Américains étaient au milieu. Alors le Russe, il dit, non, on ne passe plus. Fini, on a fermé la barrière, maintenant on ne passe plus. Il y avait trois Américains qui sont venus avec nous, là-bas, qui sont venus avec nous, plus le chauffeur. Il dit, quoi, on ne passe plus? Moi, je vais te montrer qu'on passe. Il dit, non, j'ai des ordres, je ne peux pas vous laisser passer. Maintenant, tous les Juifs qui sont là sont refoulés et les amènent au camp en Sibérie. Il ne peut plus laisser passer. Il dit, moi, je te montrerai qu'on passe. Et il pointe son fusil, l'autre aussi, et les deux autres qui étaient derrière sont allés derrière lui. Et le type avait tellement peur, il était tout seul, il avait la tremblote. Il dit, bon, tu sais quoi, je te laisse passer. Mais vous êtes vraiment les derniers. Et on est passé. Et effectivement, les autres, ils n'ont pas laissé passer. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont été ramenés en Sibérie par eux. Donc, ils nous ont amenés jusqu'en Belgique. Et en Belgique, ils nous ont mis dans un train. Dans un vrai wagon normal. Troisième classe, il y avait des troisième classe, mais c'était un wagon normal. Et nous sommes arrivés à Paris. Il existait une solidarité dans la mesure où vous receviez un petit peu plus que normalement. Mais comment voulez-vous avoir une solidarité quand vous avez une tranche de pain et elle aussi une tranche de pain? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous vouliez donner votre tranche de pain? C'était votre survie. Alors, on ne pouvait pas avoir une solidarité très grande. Bon, mais maintenant, si quelqu'un était dans un mauvais état, ou si quelqu'un flanchait, on remontait le moral. Et ça, oui, solidarité morale, on était, ça c'est vrai. Mais solidarité, point de vue manger, et c'est ça qui était le plus important. C'était le manger. On était angoissés par cette faim. J'espère que vous ne connaîtrez jamais et que vous n'avez jamais connu une faim. Qu'est-ce que c'est que la vraie faim? La soif et la faim. On ne pouvait pas boire de l'eau parce que ça donnait le typhus. On ne pouvait pas manger parce qu'on n'avait pas à manger. Et on travaillait comme des esclaves. Où voulez-vous avoir une solidarité? Dans la mesure où quelqu'un tombait, où quelqu'un se sentait mal, oui, on était tout de suite là à aider, d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'était la seule solidarité qu'on avait. On ne pouvait pas aider. Comment voulez-vous qu'on aide? On n'avait rien. Ils étaient des esclaves, nous aussi. Comment voulez-vous qu'on s'aide? Avec quoi? Lorsqu'on avait un surplus, ça, c'est 100% qu'on s'est aidé. Quand il y a quelque chose d'anormal, que quelqu'un s'est évanoui parce qu'il se sentait mal, parce que vraiment il avait faim ou comme ça, effectivement, on était tout de suite là. Ça, c'est sûr. Mais autrement... Mais la solidarité qu'il y avait, ça, c'était cette gynécologue. Je ne sais pas si je peux revenir sur ce sujet. Cette gynécologue a accouché des femmes clandestinement, pas dans le revir, même clandestinement, des femmes qui n'ont pas voulu montrer leur état et qui n'étaient pas à Auschwitz, qui étaient à Birkenau. Et elle les a accouchées dans la forêt. Et elle les a même accouchés comme elle a pu. Elle a tué l'enfant parce que autrement cette femme ne pouvait pas vivre. Et ces femmes sont restées vivantes. Elles ont d'ailleurs témoigné. Et cette doctoresse, si vous permettez que je parle d'elle, cette doctoresse, après la libération, est partie, on l'a dirigée en Amérique. Et là-bas, tout de suite, elle a tout de suite raconté sa vie. Elle a écrit un livre, « I was doctor in Auschwitz ». C'est-à-dire qu'en anglais, elle a écrit « J'étais docteur à Auschwitz ». Et ce livre, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je comprends l'anglais, pas comme le français, mais enfin, approximativement. Heureusement que je ne comprends pas tout, parce que ce livre, c'est effrayant. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu à quoi j'étais exposé et qu'est-ce que je n'ai pas subi. C'était effrayant. Elle a dû, elle, tuer des enfants pour pouvoir... laisser la mère vivante, pour elle, c'était un cas de conscience épouvantable. Et elle est arrivée en Amérique, elle a donc écrit ce livre, elle a ouvert un cabinet, elle est devenue gynécologue pour les femmes stériles, c'était son travail. Et Madame Roosevelt, qui était présidente à ce moment-là, bien que son mari ait été un antisémite notoire, le président Roosevelt, elle a contacté cette femme, qu'elle a trouvée admirable, et qui donnait des conférences. Et elle lui a dit, écoutez, venez à la Maison Blanche, vous êtes invité, je veux absolument que vous veniez parler. Et elle a dit, je ne peux pas aller chez vous parce que je mange cachère et que chez vous, ce n'est pas cachère. Elle a dit, vous ne faites pas de soucis, je vais tout faire venir cachère pour vous, et vous aurez tout ce que vous voulez. Elle a donc été invitée, elle est allée à la Maison Blanche et elle voulait lui ouvrir un cabinet médical pour exercer à un hôpital même. Et elle a dit non, elle a travaillé là-bas quelques années pour elle, elle a ramassé beaucoup d'argent, elle est partie en Israël et elle a offert la moitié de la somme à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Et elle a travaillé bénévolement dans cet hôpital pendant des années et des années. Je n'ai jamais pu avoir contact avec elle et je n'ai jamais essayé. Moi, ça m'est sorti de la tête. Une fois que je suis parti, j'étais libre et qu'on a refondé une famille, je n'ai pas pensé, moi, à cette gynécologue. Or, j'apprends l'hébreu moderne dans un ulpan, c'est-à-dire dans une école. Et dans cette école, je me suis abonné à un journal de débutants israéliens. Et dans ce journal, qui vois-je un jour, on décerne la médaille pour une doctoresse qui sort d'Auschwitz et qui a accouché des femmes, qui a écrit un livre et qui travaille bénévolement, et je vois sa photo. Alors là, j'ai eu un coup au cœur. Je dis à mon mari, ça, c'est la femme qui m'a accouché. Il dit, comment tu la reconnais? Je dis, mais elle n'a pas changé. C'est la femme qui m'a accouché. J'ai pris contact avec le journal qui m'a mis en contact avec ce docteur à qui j'ai écrit une lettre. en disant que j'étais à Auschwitz, qu'elle m'avait accouché, etc., les détails. Et j'ai reçu une merveilleuse lettre d'elle, effectivement, que c'est elle qui m'a... Je lui ai raconté ma vie, que je suis mariée, que j'ai des enfants, des petits-enfants, etc. Et elle m'a répondu que c'était effectivement elle qui m'a accouché. Et que si je vais en Israël, nous allons nous revoir, etc. Très, très, très belle lettre que j'ai encore actuellement, en anglais. Et puis, c'est passé, on a été tous les ans, nous allons en Israël, mes parents sont enterrés là-bas. Nous allons donc sur la tombe de mes parents. Et je n'ai jamais réussi à la voir, parce que lorsque j'étais à l'hôpital la voir, elle n'était pas juste ce jour-là. Et lorsque j'ai téléphoné chez elle, elle habitait Herzliya, c'est toujours un répondeur qui me répondait, me gargouillait quelque chose que je n'ai jamais rien compris. Et malheureusement, on s'est écrit et on ne s'est jamais revu. Elle est morte il y a 4 ans et on m'a dit qu'à Shaar HaTzedek, je suis allé, il y a donc un très grand tableau avec des médailles qu'on lui a décernées parce qu'elle a travaillé des années durant bénévolement dans cette section gynécologie de femmes stériles. Elle n'a vraiment rien touché du tout, mais enfin... Et qu'elle a donné encore la moitié de sa fortune. Et ça, j'ai contacté sa sœur. Je ne savais pas qu'elle avait une sœur. Elle avait donc une sœur qui est doctoresse également, qui était partie en Israël déjà en 1937. Elle était une sioniste fervente. Et qui m'a raconté son histoire, donc ce que je vous raconte maintenant. Et qui m'a donné ce livre pour lire. Et que je ne savais jamais, jamais qui c'était cette Gisela Perle. Et que je regrette énormément encore aujourd'hui que je n'ai pas pu lui parler. Mais enfin, elle a fait, c'est une femme extraordinaire qui a vraiment sauvé énormément de vies humaines, tout en étant obligée de faire avec les bébés ce qu'elle a fait. Mais c'était vraiment pour sauver la mère. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné que vraiment, c'est grâce à elle qu'elles sont restées vivantes. Mais elles accouchaient clandestinement. Si Mengele avait su ça, elles seraient passées tout de suite au four crématoire. Ça c'était sa vie, donc il y avait la solidarité déjà par cette femme, mais il y avait la solidarité, je vous dis, moralement, dès que quelqu'un se sentait pas bien, on était tout de suite là aux petits soins, c'est sûr, mais on pouvait pas donner à manger, seulement quand on a reçu un peu de surplus, un peu de ça, un peu de ça, alors là on a partagé, il y avait une solidarité, on peut pas dire qu'il n'y en avait pas. J'ai réussi à m'en sortir, difficilement, je peux vous dire. Il y a vraiment des jours où j'étais très... D'abord, nous étions toujours très, très angoissés, tout le temps. Ça, on vivait dans cette angoisse. Justement, on vivait dans cette peur, et c'est pour ça que nous vivions comme quelqu'un qui vit en vase clos. On ne s'occupait pas tellement des voisins, seulement au cas où vraiment le voisin en avait vraiment besoin, et on s'occupait que de notre survie. Et ça, c'est chaque seconde qu'on devait faire attention de rester en vie. Parce que chaque seconde, on pouvait avoir une sélection, on pouvait avoir n'importe quoi. Les SS, vous savez, ils sont venus, toi, tu t'en vas, et toi, viens ici, et toi, va là-bas. C'était vraiment, on était dans une situation désespérée. Mais on ne devait pas vivre avec ça. Parce que si on vivait avec ça, on faisait comme les autres qui se jetaient sur les fils électrifiés, tout simplement. Il y en a pas mal. Alors, bon, on vivait dans cette peur, mais ce qui nous a retenus, c'est la foi qu'on avait. C'est justement cette croyance en Dieu. Les gens pensaient que Dieu n'était pas là, et Dieu était effectivement caché à ce moment-là, mais Dieu était toujours là, même caché. Et il fallait seulement demander, il fallait seulement prier pour qu'on puisse croire qu'il est là et que ça nous aide justement, à nous soutenir, à nous maintenir. Et moi, j'avais une éducation de la maison de cette croyance. Et c'était ancré chez moi, et c'était ancré chez mes sœurs, et c'est comme ça qu'on nous a élevés. Et c'est ça qui m'a maintenu pendant tout le temps que j'étais là-bas. Je répète encore une fois que je n'avais pas ça 365 jours dans l'année, c'est sûr, parce qu'il y a des jours où j'étais complètement affaibli. Et surtout lorsque j'étais à Neustadt, alors là j'étais complètement parti, je me suis dit maintenant je me laisse couler, c'est fini, je ne peux plus. J'en pouvais plus parce que j'étais affaibli à tel point, je pense que je suis sorti avec 25 kilos, j'étais tellement affaibli que je me suis dit, c'est fini, c'est ma fin. Et je me suis dit, bon, je me laisse. Et puis, tout de même, en me réveillant, en me levant, je me suis dit, non, il ne faut pas que je me laisse. Peut-être que quand même, il y a quand même un Dieu, il y a quand même mes parents qui prient, il y a quand même, je vais les revoir. Et j'ai réuni toutes mes forces et j'ai continué à refaire surface. Ma belle-sœur, le temps que nous étions ensemble, ma belle-sœur qui a 20 ans de plus que moi, elle a tenu le coup aussi parce que je lui donnais pas mal de courage et elle aussi, vice-versa. Mais je crois que j'ai entendu, je ne l'ai jamais revue, et j'ai entendu vaguement qu'à Bergen-Belsen, elle était déportée à Bergen-Belsen et là-bas elle s'est laissée complètement couler. Je ne sais pas exactement comment elle est partie. Je n'ai aucune. Personne n'a pu me dire, ni elle, ni mon mari, ni mon beau-frère, on ne sait pas du tout comment ils sont partis et quand ils sont partis parce qu'ils ne sont pas revenus. Mais c'est seulement la foi qui nous a tout donné, rien d'autre que la foi. Là-bas, il n'y avait pas question d'argent, il n'y avait pas une question de situation, je ne sais pas quoi. Si on pouvait arriver à être dans les cuisines, ça, ça vous a maintenu. Si vous arriviez à être secrétaire spécial, avec, j'ai entendu que quelqu'un savait écrire gothique, l'allemand gothique, et on avait besoin de quelqu'un, elle était spéciale, donc elle avait une chance de plus de survie. Mais autrement, nous, les pauvres, qu'est-ce qu'on était? Rien du tout. Nous, c'est seulement la foi qui nous a sauvés, rien d'autre, seulement la foi. Il n'y avait rien à faire autrement. Il fallait croire, il fallait espérer qu'on sort et que Dieu va nous aider. Et ceux qui ont eu, catholiques, protestants, n'importe quelle religion, qui ont eu cette foi, ont réussi peut-être à s'en sortir. Et c'est là que ça s'arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux vous parler de la chance, absolument. Alors, je peux vous d'abord parler d'une chance que je ne vous ai pas parlé quand il paraît que lorsque j'étais petite, en Hongrie, ça c'est ma mère qui m'a raconté. Je suis née et puis je suis tombée malade et je suffoquais et je suis devenue bleue et mon maman a été voir, j'avais peut-être un an ou deux ans, et maman a été voir un docteur et le docteur lui a dit, écoutez madame, je crois qu'il n'y a plus rien à faire avec cet enfant, j'ai même peur que le moment où vous allez rentrer, l'enfant ne vivra plus. Là-dessus ma mère, vous savez que nous, chez nous il y a des grands rabbins qu'on consulte lorsque vous êtes très malade, mais c'est des grandes personnalités qui ont fait des études très 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 fortes, très placées, et on demande une bénédiction à ce rabbin. Nous, nous n'avons pas été élevés dans cette idée du tout, on prie Dieu, mais il y a des gens qui sont, ça s'appelle des chassidiques, qui sont comme ça, qui demandent tout le monde à son rabbin, mais un grand rabbin, pas un rabbin, pas comme papa était un très érudit, mais c'est pas chez mon père qu'on est venu demander une bénédiction, mais ça c'est des rabbins comme le pape, enfin des gens de cette situation. Et maman n'était pas tellement éduquée dans ce genre, mais en passant, elle s'est dit, elle va quand même demander au rabbin, puisque j'étais déjà perdue, qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour entrer chez ce rabbin, il faut faire la queue, il y a du monde, des malades qui attendent, qui demandent la bonne santé. Et maman disait que c'était très pressé, et on a laissé passer. Et le rabbin me voit et il dit à ma mère, ne fais pas de soucis, tu rentres à la maison, cet enfant sera en bonne santé. Et ma mère l'a regardé avec des yeux, elle s'est dit, certainement il n'est pas tout à fait en ordre. Le docteur vient me dire que je ne vivrai pas, et lui il dit comme ça. Bon, elle est allée quand même voir ce rabbin et elle sort de là. Je vous cite ce qu'elle m'a raconté. Et en rentrant, elle passe devant une pharmacie. Et elle va chez le pharmacien demander, peut-être que le pharmacien a peut-être quelque chose, qu'est-ce qu'on peut savoir? Je ne sais pas. Et je suffoquais, et j'étais bleue, et je ne pouvais plus respirer. Et elle va chez le pharmacien, et le pharmacien me regarde, et puis il dit, écoutez, la seule chose que je peux vous donner, c'est des sangsues. Prenez des sangsues, essayez de mettre sur l'enfant. Vous savez ce que c'est les sangsues? Ce sont des petits animaux, comme des petits vers, que vous mettez sur le dos et qui vous sucent le mauvais sang. Et bon, ça vous laisse des petites traces, mais après, ils sont inertes, vous les ramassez et puis vous les jetez. Et ces sangsues, c'était pas. Le docteur ne donne pas ça parce que c'est presque gratuit, ça ne les intéresse pas tellement. Et puis, ils n'y croient pas tellement, ils mettent des ventouses. Les ventouses, c'est le verre qui souvent, ils vous vendent des tas de choses. Les sangsues, pas, ça ne les intéresse pas. Et le pharmacien dit, écoutez, prenez ces sangsues, ne me payez pas, ça coûte trois fois rien. Essayez de mettre, qu'est-ce que vous perdez avec ça? Et ma mère est rentrée, elle m'a mis les sangsues, il ne s'est pas passé cinq minutes, je suis revenue en vie. Parce que ces sangsues, elle m'en a mis sur le dos, et ces sangsues ont sucé le mauvais sang, et je suis revenue à la vie. Alors ça, c'était mon premier miracle de ma vie. Et vous voyez comment le rabbin, il a tout de suite vu, je ne sais pas comment, enfin il a tout de suite vu dans mes yeux ou dans les yeux de maman que je serais en vie. Bon, par la suite, je ne sais pas si ma mère a été chez le docteur pour le lui faire savoir, ça, je ne suis pas au courant. Par la suite, j'ai eu des petits accidents de bicyclette, parce que pendant la guerre, qu'est-ce qu'on pouvait faire? J'ai fait beaucoup de bicyclette, donc je suis tombé d'une façon tout à fait anormale. Ma bicyclette s'est mise en 8, la roue, et moi, je suis restée vivante, j'avais une grande plaie sur le côté, je suis resté vivant. Ensuite, j'ai eu un accident de bicyclette parce que quelqu'un m'est rentré dedans et j'avais avec l'œil quelque chose ici. Bon, ça aussi, Dieu merci, je suis resté vivant. Et alors, par la suite, effectivement, alors là, quand je suis arrivé au camp, alors là, c'était vraiment, si je peux dire, la chance dans le malheur. D'abord, j'avais de la chance que Barbie ne m'a pas touché parce que je sais que c'était un sanguinaire qui frappait, qui était horrible, qui ne connaît pas Barbie. Il fallait que je sois naïve comme j'étais pour ne pas savoir qui c'était. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est quand je suis arrivé à Auschwitz et que j'ai eu cette veste blanche, et que l'SS m'a vu de loin grâce à cette veste. Et comme il faisait tellement noir, et c'était à 4 heures du matin, c'était blafard, triste, triste à en mourir si on peut dire, il m'a vu cette veste, il s'est dirigé vers moi et il a pensé que moi je suis bonne pour le travail, donc c'était une grande chance qui m'est sortie de là. Par la suite, j'ai eu la chance parce que toutes les sélections qu'on a passées, on n'avait pas de bouton chaque semaine, alors qu'on n'avait pas d'eau pour se laver. J'ai eu la chance de passer toutes les sélections mensuelles. Et effectivement, alors qu'on n'était pas tellement gros. Enfin, étant donné que j'avais du ventre, peut-être ils ont pensé que j'étais grosse de partout. Enfin, je ne sais pas. Enfin, j'avais de la chance. Et puis, naturellement, ma plus grande chance, c'était quand ils m'ont laissé passer alors que j'étais enceinte et que je ne suis pas passée au four crématoire le jour de Kippour. Ça, c'était une très grande chance. Et ensuite, la chance, c'était quand... j'ai accouché et que la SS m'a laissé en vie, peut-être parce que c'était le 25 décembre, est-ce que je sais, aussi parce que j'avais bonne mine, aussi parce qu'elle pensait que je pouvais travailler, et aussi à penser qu'il n'y aura pas de génération future, étant donné que le bébé était mort. Alors dans ma malchance du bébé, j'avais la chance de rester vivante. Et puis la chance, c'est le 18 janvier d'avoir trouvé du sucre pour me tenir pendant ces trois jours de marche de la mort, et de ne pas être tombé comme les autres. Et la chance, c'est le coup qu'elle m'a donné, cette capot, qui pensait, en vérité, m'a fait très mal, et que j'ai, pendant un jour et demi, je suis resté prostré, et que j'ai rien vu venir, donc je n'ai pas eu besoin de manger, et que je me suis réveillé, et que j'étais libéré. C'était, dans ce malheur, c'était peut-être aussi une chance. Et la chance, c'est qu'on n'a pas, on ne s'est pas jeté sur le manger, comme tout le monde, qu'on n'a pas eu la dysenterie, enfin, très peu, pas au point de mourir, parce qu'il y avait beaucoup qui sont morts par ça. Et après, la chance d'avoir été libéré, et de ne pas avoir été outragé par ce Russe, qui est venu me voir, et qu'il a vu que j'étais une déportée, et c'est grâce à mon numéro que j'ai été sauvée. Alors, ce que les Allemands ont fait de mal, se sont tournés pour leur malheur à eux, en bien pour moi. Si on peut dire. Hein. Bon, et puis ensuite, la chance d'avoir été libérée et d'avoir retrouvé mes parents, ça c'est la plus grande chance que je pouvais avoir.